dans ce qu'on appelle habituellement l'initiation chrétienne, c'est-à-dire ce qui va faire passer une personne de non-chrétien à chrétien, dans cette initiation, il y a en réalité, dans la plupart des églises chrétiennes, trois rites. Le baptême, la confirmation et la communion à l'Eucharistie. On pourrait s'interroger en comprenant bien qu'il y ait le baptême, c'est la porte d'entrée, qu'il y ait la communion à l'Eucharistie, c'est en quelque sorte la nourriture du chrétien qui va le faire grandir dans sa vie spirituelle, mais la confirmation, point d'interrogation, qu'est-ce réellement que cette démarche? Ne fait-elle pas double emploi avec le baptême? Tout de suite, la question jaillit. On nous a dit que dans le baptême, nous recevions l'Esprit Saint qui fait de nous des fils de Dieu. Pourquoi faut-il encore une nouvelle démarche pour recevoir l'Esprit si nous l'avons déjà reçu? Souvenons-nous de cette remarque un peu humoristique faite par le saint orthodoxe saint Séraphin de Sarov à propos de l'invocation de l'Esprit. Une fois que l'Esprit est invoqué, dit-il, il est là, vous n'avez pas besoin 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la même prière, à nouveau d'invoquer la présence de l'Esprit. C'est comme quand quelqu'un frappe à votre porte, vous lui dites « entrez ». Mais une fois qu'il est entré, vous n'allez pas lui redire « entrez », puis une troisième fois encore « entrez ». Vous l'avez dit une fois, il est entré, il est là. Est-ce que dans la vie chrétienne, ce ne serait pas un peu la même chose? Si l'Esprit Saint est venu en puissance, et je ne pense pas que l'Esprit Saint vienne parfois à moitié ou en vitesse, il vient ou il ne vient pas. S'il a été donné, il a été donné en plénitude au jour du baptême, pourquoi alors cette deuxième démarche qui consiste à redemander une nouvelle fois l'Esprit Saint et pourquoi cela se concrétise-t-il par ce qu'il est tenu d'appeler un sacrement, celui de la confirmation? Il va nous falloir éclairer cette question. Et pour cela, nous aurons besoin de revenir à la source historique. Comment ce geste s'est-il mis en place à travers l'histoire de la communauté chrétienne? Et nous comprendrons peut-être davantage pourquoi il fait l'objet d'une démarche particulière aujourd'hui. Après cette première question de savoir à quoi sert la confirmation, est-elle vraiment nécessaire? Y a-t-il un doublon avec le baptême? Nous pouvons aussi nous poser une autre question. Dans cette démarche, qui confirme quoi? J'ai souvent entendu dire que la démarche de confirmation venait de la part de la personne qui, ayant été baptisée enfant, a le souci de marquer personnellement sa démarche de foi et donc, en demandant de recevoir la confirmation, la personne baptisée confirme en quelque sorte son baptême, confirme sa foi en Jésus-Christ. Eh bien, cette réponse n'est pas la bonne. Ça n'est pas le baptisé qui confirme sa foi. Il a confirmé sa foi dans une autre démarche qu'on appelle la profession de foi. Où là, chacun, ayant été baptisé enfant, peut faire la démarche, parce qu'il a l'âge de raison, de dire « cette foi chrétienne dans laquelle j'ai été baptisé quand j'étais tout petit, toute petite, je confirme que je veux y adhérer, je confirme que je veux suivre Jésus. » Ça, c'est la profession de foi. Ça n'est pas la confirmation. Si la confirmation est un sacrement, c'est que cette démarche est à l'initiative de Dieu. C'est lui qui va agir dans cette démarche avant que ce ne soit l'heureux bénéficiaire de cette grâce.
Au ras des pâquerettes, Étienne Dallaire.
Nous avons donc clairement établi que, dans la confirmation, ça n'est pas le baptisé qui, à travers cette démarche, confirme son baptême. Mais, par contre, il faut reconnaître que la confirmation est bien l'objet d'une démarche personnelle. Autant nous avons pu être baptisés enfants sans le savoir, les parents ont fait pour nous la démarche. Autant personne ne peut faire la démarche de la confirmation à notre place. Et vous savez que, concrètement, il est devenu maintenant habituel dans l'Église que le jeune qui veut être confirmé fait une demande écrite et personnelle à l'évêque pour exprimer son désir. Donc, il y a bien là une insistance sur le fait qu'il y a une démarche effectivement personnelle qui doit faire l'objet d'un choix libre et responsable. La confirmation, dans cette perspective, est appréhendée comme une étape de maturité spirituelle où le jeune ou l'adulte a compris que l'amour de Dieu reçu au baptême est un véritable trésor, mais que ce trésor, il faut avoir à cœur de le développer et de le partager. Habituellement, on peut faire cette démarche lorsque l'on est en âge de raison, c'est-à-dire aux alentours de 10 ans, 12 ans, parfois 14 ans. Selon les coutumes locales. Mais il peut tout à fait arriver qu'un adulte s'aperçoive un jour qu'il n'a jamais été confirmé. Certes, il a été baptisé lorsqu'il était enfant, mais jamais cette démarche n'a été faite. Et il n'est pas rare aujourd'hui que chaque année, il y ait dans chaque diocèse plusieurs dizaines d'adultes qui sont dans ce cas et qui vont recevoir la confirmation. Il faut bien comprendre que ce sacrement n'est pas destiné qu'aux jeunes. Il est nécessaire pour une plénitude de la vie chrétienne. Alors, parfois, un adulte peut faire la démarche à l'occasion d'une étape de conversion qu'il vient de vivre, ou bien d'une redécouverte de la foi. Parfois aussi, on voit certains adultes avoir soif de ce sacrement à l'occasion de la préparation au mariage ou bien de la préparation au baptême d'un de ses enfants. Il n'est jamais trop tard pour faire la démarche de confirmation si vous n'avez pas eu cette chance, cette grâce de vivre ce renouvellement dans la puissance de l'Esprit-Saint. Le lien est donc clairement établi entre le baptême et la confirmation. Pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui cette confirmation fait l'objet d'une démarche particulière, nous allons nous pencher dans notre prochain rendez-vous sur l'histoire de ce sacrement.